Bonjour, Éric Godichaud, à Bâton Rompu, sur Radio Grand Ciel. Bonjour, aujourd'hui, émission spéciale avec Anna Angelopoulos, psychanalyste et spécialiste du conte. Je suis allé à Paris, chez elle, pour une interview qui, j'espère, vous donnera envie de vous replonger dans ces petits trésors scintillants.
C'est une histoire du temps passé, échappée d'un songe, simple mensonge ou vérité pour qui veut l'entendre. Auprès d'un chêne abandonné, un enfant repose dans un carré de laine, l'arbre assoupit, éteint ses branches.
Bonjour Anna Angelopoulos, merci de nous recevoir dans cet appartement où vous recevez vos patients. Appartement qui est bien loin de l'image aseptisée et zen qu'on se fait d'un appartement de psychanalyste, tenant à la fois du nid douillet et des projections de lanterne magique. Ceci étant dit, pouvez-vous en quelques mots vous présenter à nos auditeurs de Radio Grand Ciel ?
Alors, bonjour à vous, merci de vous être placé jusqu'à chez moi, à mon lieu de travail et à mon lieu de vie. Qu'est-ce que je pourrais dire maintenant aux gens qui nous écoutent ? Ben que j'ai eu beaucoup d'amour dans ma vie, mais que le conte est le plus grand, certainement, parce qu'il dure depuis des décennies et des décennies, et qui m'a amené à faire plusieurs choses, dont... avec une équipe, un catalogue du conte grec, qui est une sorte de dictionnaire encyclopédique où vous retrouvez tous les contes grecs dans les archives. J'étais une ethnologue d'archives. On donne toutes leurs versions, des analyses, l'état de la recherche. Et c'est vraiment un outil très utile, mais qui, moi, m'a appris beaucoup. C'est comme ça que j'ai commencé à étudier vraiment le conte, parce que je l'ai connu de façon artisanale de tout près. Ce catalogue, il comprend 5 volumes. On l'a traduit en anglais. Et puis, j'ai fait d'autres travaux sur le conte, et notamment mon dernier livre en français, qui était Les contes de la nuit grecque chez José Corti.
Donc, vous êtes psychanalyste et vous intéressez aux contes. Quel est le lien entre une pratique thérapeutique, la psychanalyse, et cet intérêt pour le conte ?
Alors, moi, je pense que les deux choses sont liées, parce qu'il y a une chose très facile à comprendre, c'est la force des images. Le conte contient des images vraiment lumineuses et fortes qui se gravent dans la mémoire et qui en plus sont un peu surréalistes. Elles ne cherchent pas, elles ne sont pas rationnelles du tout. Et lorsque vous écoutez un conte, parfois vous tombez dans une rêverie qui est l'espace du conte, qui n'est pas très loin de la rêverie diurne ou du rêve même qu'on fait quand on dort. Donc de là, on a un lien à la psychanalyse et beaucoup, beaucoup de chercheurs ont rapproché la zone d'endormissement et le conte et le rêve. À commencer par Platon qui n'avait pas cette intention-là du tout, mais qui ne voulait pas que les enfants écoute beaucoup de contes parce que c'était un pervertissant pour eux. Et ils disaient, le conte ne sert qu'à des vieilles nourrices qui racontent à des enfants à moitié endormis dans tes têtes. Il y en a eu bien d'autres. Et moi, je pense qu'il y a dans le conte un contenu manifeste, un contenu latent comme dans le rêve. Et donc, qu'on peut avoir tout à fait un accès à des pensées inconscientes en écoutant des contes.
Donc, quelle est la différence essentielle entre un conte écrit et un conte oral ? Pourquoi est-ce important de les distinguer ?
Alors, mais il y a une énorme différence. Un jeune vous dirait, il n'y a pas photo. Parce que le conte écrit, il est fixe. Il obéit aux règles de l'écriture. Une fois qu'un conte a été écrit et publié, sauf s'il y a une nouvelle publication qui reprend la précédente, mais un conte écrit, il est écrit pour toujours. Il est signé par un auteur et, par exemple, les contes de Perrault sont les contes de Perrault. Même si la source est populaire, il les a tellement modifiés, remaniés, réécrits, censurés, formatés, peut-être qu'ils sont très beaux. Je ne parle pas de leur valeur littéraire ou artistique, mais en tout cas, ils sont fixés. On peut les apprendre par cœur et dire « je connais les contes de Perrault ». Quelque chose comme ça est impossible avec le conte oral, qui est un objet collectif s'il en est, c'est-à-dire il se crée en même temps qu'il se transmet. Dans une veillée, les gens qui écoutent, ce sont des porteurs de la tradition passive, alors que le conteur est un porteur de la tradition actif. Mais tous ensemble, ils font le conte, parce que s'il ne plaît pas le conte, il n'est pas re-raconté, il est mort le lendemain. Donc pour qu'il vive le lendemain, il faut qu'il plaise. Pour qu'il plaise, il faut qu'il plaise à tout le monde, en tout cas à tous les présents. Et de réunion nocturne en réunion nocturne, de fête en fête, de nuit où on veille pour tisser, où les bouilleurs de cru vont veiller, ou dans ce qu'on appelle les veillées, même les veillées mortuaires, on raconte tous ensemble et on retient les histoires qui nous marquent. Et on les refait, ils corrigent ses erreurs aussi. Donc il y a tellement de versions dans un conte qu'on ne peut plus parler d'une histoire. Il n'y a pas un petit chaperon rouge comme le petit chaperon rouge de Perrault. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup et différents.
Alors lors du séminaire que vous tenez depuis des années avec Sylvette Gendre de Suzeau, vous insistez souvent sur les variations précisément autour d'un même conte, les différentes versions du même texte. Pouvez-vous nous donner un exemple ? Pour ma part, je pense au conte grec des neuf cygnes, où il y a un peigne, le détail du peigne qui est développé dans une des versions, qui devient incongru dans une autre, et qui forme comme un trou qui est en quelque sorte présent dans son absence.
Vous touchez là une grande question qui reste ouverte. Effectivement, si vous me parlez des trous, les trous de mémoire, la mémoire humaine étant faillible, on ne peut pas raconter de la même façon la même histoire deux fois. D'ailleurs, Freud le dit, qu'il faisait répéter les rêves de ses patients et que c'était jamais le même et que c'est à partir des petits écarts qu'il voyait des choses et qu'il y avait des ouvertures vers l'inconscient parfois qu'on pouvait associer. Donc là, quelque chose de toute proportion gardée d'analogue se passe avec le conte. parfois le compteur ne se souvient pas. Et il a un trou, ce qu'on appelle un trou. Et dans ce trou-là, ce qui est merveilleux, littéralement, c'est qu'il ne cherche pas à réparer ce trou. C'est comme un tissu qu'il va nous transmettre troué. Et le prochain, il va le reprendre et il aura d'autres trous. Et comme ça, on aura une multitude de versions. Mais par là, on va vraiment comprendre des choses si on veut analyser un conte. Maintenant, l'exemple que vous me donnez avec les 12 frères cygnes et la belle Hélène, qu'on appelle la version grecque, c'est un conte effectivement très, très beau, lumineux, où il y a une petite fille qui naît dans une fratrie de garçons. Les garçons sont menacés par cette naissance. Parfois, c'est même dit clairement qu'ils vont mourir à la naissance de la fille ou que la mère souhaite qu'ils meurent. Pour obtenir une fille, elle donnerait en échange ces 12 garçons. Et à la naissance, ils deviennent des oiseaux, ils se métamorphosent et ils partent dans le ciel. La petite fille demande après, en grandissant, pourquoi j'ai pas de frère. On lui dit la vérité et elle part à leur recherche. Elle les retrouve. Elle doit passer des années, 7 ans souvent, sans parler, dans un mutisme total, à tisser un tissu par des orties, vous voyez l'image, et pour leur faire le tissu humain, pour leur donner forme humaine, des chemises, des... Alors, pendant ce temps-là, un prince vient, la voit, l'épouse et l'amène dans son palais. Elle devient reine, mais elle est toujours muette. On l'accuse de manger ses enfants, sa méchante marâtre, et on lui met du sang autour de la bouche. Elle n'avoue jamais. Elle continue à tisser frénétiquement. Et puis après, le jour où on la mettra sur le bûcher, ça sera prêt, les tissus seront prêts, et on entendra le bruit des ailes de tous ces oiseaux qui arrivent, qui prennent les vêtements, qui les mettent, qui deviennent des hommes et qui racontent la vérité. Et donc, l'envoûtement est arrêté, elle est libérée, elle peut vivre. Il y a donc des versions de ce conte, si j'ai encore une minute pour vous expliquer l'histoire du peigne. Vous avez une variante où cette fille, pendant qu'elle est avec ses 12 frères dans leur petite maison dans la forêt, elle rencontre un ogre. Et cet ogre, il vient, il y a un feu dans la cheminée et il faut pas que le feu s'éteigne. Là, ça c'est quand même un symbole de la vie. Il faut absolument pas. Un jour, le chat fait pipi sur le feu et le feu s'éteint et donc elle demande du feu à l'ogre. Apparemment, l'ogre, bon, c'est une image aussi sexuelle, il vient tous les jours, il lui donne le feu, mais il met son petit doigt dans la chatounière et, elle plutôt, il lui suce le sang tous les jours. Alors, à ce moment-là, elle devient faible, blême, elle tombe dans les pommes, les frères ne comprennent pas. Quand ils comprennent, ils trouvent l'ogre, ils le tuent et ils lui disent « on va l'enterrer ». Qu'il ne faut absolument pas qu'on touche à ses os parce qu'ils sont dangereux. Et que fait la petite fillette prise dans cette ambivalence fraternelle? Elle fabrique un peigne avec ses os. Et ce peigne, elle épouille ses frères avec ses peignes et ils deviennent des petits animaux. C'est un aspect que les versions des oiseaux ne racontent pas. Dans une version où on raconte la première variante que je vous ai exposée avec les oiseaux, tout d'un coup le conteur dit elle tissait, elle était muette, et il y avait un peigne. Et puis on continue, et puis on comprend pas qu'est-ce qui fait là ce peigne. Mais c'est le signe, justement, d'un trou de mémoire. C'est le signe qu'il y a quelque chose là où il faut chercher. D'un passage vers un autre courant de l'histoire où la fille avait un comportement déviant. Un événement, oui, comme vous dites, absolument. Et ce genre de choses, ce genre de trous, nous, pendant une époque, quand je fréquentais le séminaire de Nicole Belmont, même on avait fait comme emblème. Je me souviens qu'un de mes anniversaires, on m'avait offert un peigne. parce que c'était le motif aveugle, ce qu'on appelle un motif aveugle. On ne comprend pas pourquoi il est là, mais il a une autre raison que celle qu'on croit. Voilà. Et je travaille beaucoup avec cela.
It's oh so so still. So peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple is caving in. Wow! You never been so nuts about a guy. You wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over and then. Riot. You blow a fuse. Simple, the devil cuts loose. Simple, so what's the use? Wow! Of falling in love. It's oh so peaceful until you ring the bell, 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 shout and you yell, hey, you broke the spell. This is where you almost have a fit. This guy's coaching, I got hit. There's no mistake, this is it. Till it's over and then.
Ah oui, l'année dernière, vous avez parlé de ces contes où l'énigmatique, l'incompréhensible, voire le non-sens, joue un rôle essentiel. Est-ce que vous pouvez rapidement nous parler de ces contes ?
Il est très difficile de parler rapidement de ces contes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a toute une catégorie de contes à énigmes, c'est-à-dire de contes qui contiennent des énigmes, où l'énigme est l'histoire du héros, le récit de ses aventures, tout ce qu'il a subi pour devenir celui qu'il est. Et c'est souvent rempli de meurtres, c'est des histoires très dures. Mais comme cela exigerait beaucoup plus de temps, je préfère vous dire quand même une chose importante sur l'énigme, c'est que le conte, il est énigmatique en tant que genre, il est énigmatique, comme le rêve. Il a un secret, ou plusieurs, ou en tout cas, il n'est pas d'une clarté époustouflante. Ces images, justement, dont je vous ai parlé au début, n'ont pas de sens a priori. Le sens, on le trouve beaucoup, beaucoup plus tard, en faisant des associations avec d'autres mythes, avec des histoires, avec nous-mêmes, avec l'énigmatique. Et c'est ce que Freud fait. Il accorde au conte une valeur énigmatique. Bon, bien sûr qu'il accorde une beaucoup, beaucoup plus grande valeur énigmatique au mythe. Il a un peu le conte en seconde catégorie. Mais ce n'est pas grave, parce que beaucoup plus tard, après, nous avons repris les études sur le conte, et qu'avec les moyens de l'époque, on ne pouvait pas savoir tout ce qu'on sait aujourd'hui pour voir les merveilles qu'il opère, justement, du côté du contenu latent.
Pour finir, Anna, quel est le premier conte dont vous vous rappelez, que vous rappelez avoir entendu enfant, lorsque vous étiez enfant ?
Alors là, je dois vous dire tout de suite qu'on ne m'a pas raconté de contes. J'étais une petite fille bien élevée à qui on lisait des histoires didactiques qui avaient une moralité et que les contes, non, on ne m'a raconté pas. Mais disons qu'il y avait quand même, pour répondre à votre question, quelques contes dans une grande collection pour enfants, quelques contes populaires grecs. Qui ont été édités avec des images, tout comme les autres que je lisais. On ne voyait pas la différence. Le livre, en tout cas, était pareil. Et j'avais ouvert un livre, mais je l'ai lu moi-même. Et c'était une version de Blanche-Neige. Et j'ai compris, à peu près 30 ans plus tard, que c'était une version de Blanche-Neige, parce que dans cette histoire, il n'y a pas de marâtre, il n'y a pas de miroir, et il y a trois sœurs orphelines qui demandent au soleil laquelle est la plus belle. Et le soleil préfère la petite. Et les deux sœurs aînées veulent tuer la cadette. Vous imaginez, je devais avoir 7-8 ans. Alors il l'emmène au cimetière la nuit pour exhumer les os de sa mère. Et il la laisse sur la tombe de la mère en plein minuit. Et on a très peur. Et à ce moment-là, les arbres la prennent en pitié et lui disent, elle a une galette toute ronde, c'est le pain qu'on offre aux morts, lui disent, lance cette galette au plus loin, là où elle ira, tu iras et tu t'arrêteras et tu vivras tranquille, effectivement. Elle court derrière la galette 3 jours et 3 nuits et elle arrive à la maison des 12 mois, qui est l'équivalent de 7 nains. Et l'histoire continue comme on la connaît. Seulement, c'est tellement vraisemblable, surtout pour un enfant, mais même, disons pour un non-spécialiste, de comprendre que c'est la même histoire et qu'elle peut varier tellement d'une version à l'autre que moi, j'ai dû devenir... C'était en écrivant ma thèse que j'ai réalisé que ce que j'avais lu enfant était une version de Blanche-Neige. Voilà.
Ça, c'est le problème de la... Je pensais à ça aujourd'hui, de la répétition et de la différence. Pour qu'il y ait répétition, finalement, il faut qu'il y ait des différences aussi. C'est pour ça que c'est intéressant, toutes ces versions différentes d'une même histoire, et parfois tellement différente d'ailleurs qu'on ne reconnaît pas a priori l'histoire, et il faut effectivement un grand travail pour reconnaître le même dans le différent.
Comme dans un rêve, ça a dû vous arriver, ça nous est arrivé à tous, que vous sursautez, vous dites « mais mon Dieu !» et vous comprenez quelque chose, que tel personnage représente votre oncle, je ne sais pas, je dis une bêtise, mais disons, on comprend, on sursaute, et le même sursaut, on peut l'avoir avec des moments très différents dans le conte, mais qui parlent de la même trame narrative, en fait.
C'est-à-dire que le conte, il fait interprétation pour chacun. C'est pour ça, c'est intéressant, c'est des textes qu'on peut s'approprier, et que chacun peut s'approprier en... Et le conte, en fait, lui dit quelque chose à chaque personne en particulier. C'est pas, comment dire, il n'y a pas un sens unique, quoi.
Non, c'est comme, disons, on va dire, un rêve collectif un peu.
Oui, oui, oui. On rêve à plusieurs.
Le psychisme de chacun.
Donc ça rejoint un peu le cinéma, ça.
Un peu, oui.
Parce que le cinéma, c'est un peu le rêve à plusieurs. On est plusieurs dans la salle.
Le cinéma, c'est le divan du pauvre dans son livre.
Bien, bah le conte est bon. Anna, merci de cette riche traversée du conte, même si c'est rapide, qui, je l'espère, donnera envie aux auditeurs de Radio Grand Ciel d'aller au-delà. Vous avez publié chez José Corti Les Contes de la Nuit Grecque avec une passionnante postface finissant par ces mots. Le conte grec mythique se dessine tout au long de ce recueil comme un enfant en rébellion. Malgré la censure imposée au conte populaire, il reste toujours cet enfant. J'arrive pas à relire. incorrigible, qui ne renonce pas à la quête de ses origines. Donc au revoir Anna et merci.
Au revoir à vous et merci à vous.
Merci donc Anna Angelopoulos. Anna Angelopoulos est l'auteur d'un recueil de contes. Les Contes de la Nuit Grecque, paru chez José Corti. Je vous conseille chaleureusement la lecture de ce livre.
la forêt, un cabanon, comme elle disait, elle dormait quand elle voulait, ne travaillait jamais. Pareo nouait dans le dos des fruits, des fleurs et des oiseaux, le goût du sel sur la peau. Elle était belle, j'étais beau. Sous un baldaquin de tulle, une bougie, le clair de lune, nos deux corps dans une bulle, le cœur et la fortune. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi? On ne parlait jamais d'amour. Le grand amour, ça n'existait pas. Elle fumait, je l'embrassais, je cuisinais, elle m'enlaçait, elle dansait, je chantais en anglais, en javanais. Nu, sous mon tablier, je revivais, abandonné sous les baisers parfumés. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi? On ne parlait jamais d'amour. Le grand amour, ça n'existait pas. Je m'y connais jusqu'à ce jour de fin juillet. Elle souriait, mais je devinais, le vent avait tourné. Affolé par l'épouvantail de quelle erreur monumentale. L'amour, le vrai, le beau, c'était barré au galop.